retour au podcast Hypercroissance, édition discussion d'affaires, les podcasts du jeudi avec Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Antoine, salut, ça va très, très bien. Dernier blitz avant les vacances de Noël. Donc, ça va super bien jusqu'à là. Et toi, comment vas-tu?
Ça va très bien, effectivement. 20 décembre 2022, on termine la semaine juste avant Noël et par la suite, bon, c'est entre Noël et le jour de l'an, on le sait, là, c'est un petit peu plus tranquille pendant cette semaine-là. C'est plus un moment de réflexion. Mais là, il y a une chose, j'entends, qui n'est pas tellement tranquille ce temps-ci et qui fait écarquiller beaucoup d'yeux et qui nous fait réfléchir et se poser des questions littéralement sur des travaux qu'on fait quotidiennement. C'est ChatGPT, la nouvelle version bêta qui a été sortie par OpenAI. OpenAI qui est un organisme, je pense, qui est à but non lucratif. Je ne pense pas qu'ils ont une vision de profitabilité, qui a été fondée d'ailleurs par Elon Musk et d'autres partenaires fondateurs dans le passé et qui ont l'objectif un petit peu de démocratiser l'intelligence artificielle, de lui donner le maximum d'accessibilité pour, encore une fois, le maximum de gens dans le monde. Ils ont sorti leur produit ChatGPT et on a testé le tout, toi et moi. On est ailleurs.
On est sans mots. On est ailleurs. Moi, de mon côté, là, Antoine, puis ceux qui nous écoutent, je suis absolument sans mots. J'entends souvent des gens dire que la toile est en feu à propos d'un sujet, mais je n'ai jamais vu les médias sociaux comme Twitter présentement, TikTok, LinkedIn, autant parler d'un sujet ou d'une nouvelle technologie. Puis là, je dis, bon, je vais aller voir c'est quoi. Puis j'ai eu la chance, mon côté, puis je pense toi aussi, Antoine, de t'aller voir un petit peu c'était quoi, puis de l'utiliser. C'est disponible présentement pour le grand public gratuitement là, sur le site d'OpenAI. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et dans plusieurs cas d'utilisation, là, mais vraiment dans de très nombreux cas d'utilisation. Et même, je pense que si vous êtes entrepreneur, vous nous écoutez aujourd'hui, allez essayer ça. Il y a probablement beaucoup de choses dans votre entreprise que vous allez gagner du temps, de l'efficacité puis pouvoir automatiser. Juste avec la version actuelle de ChatGPT, là, c'est vraiment impressionnant. Là.
Puis on va en parler un petit peu des tests qu'on a fait. Mais Jonathan, peut-être commence un petit peu toi de ton côté. Tu avais une histoire que tu me disais avant le podcast qui avait quasiment aucun sens. Je pense que tu essayais de trouver du temps avec ton équipe depuis plusieurs années pour mettre un projet de l'avant. Finalement, ChatGPT a fait le travail pour toi, là.
C'est oui, exactement. On a des idées de produits technologiques qu'on veut développer ici dans notre incubateur, l'Open Lab. Puis, entre autres, un outil qu'on utilise qui nous relance les courriels si la personne à qui on a envoyé le courriel n'a pas répondu. Donc, l'outil s'appelle Boomerang. C'est disponible pour Outlook, pour Gmail et compagnie. Puis, ça fait des mois et des mois qu'on voit qu'il y a des lacunes dans ce système-là. Puis, on se dit, il faudrait libérer du temps d'un développeur pour programmer quelque chose d'équivalent de ça. Et là, pour le fun, j'ai dit, je vais demander à ChatGPT, peux-tu me programmer un logiciel équivalent à Boomerang pour Outlook? Et hallucinant, devant moi, il a écrit à peu près 90% du code pour réussir à répliquer ce logiciel-là en une seule requête. Et le code est fonctionnel. C'est hallucinant. Et là, je me dis, bon, il me l'écrit dans son langage qu'il voulait. Il l'a écrit en langage Python. J'ai dit, réécris-moi-le en C#, qui est complètement un autre langage. Et en quelques secondes, il m'a réécrit au complet le code fonctionnel dans l'autre langage. Je suis sans mots.
Ça fait peur quasiment.
Ça n'a complètement aucun sens. En tout cas, pour nous, des gens qui... Notre business est généralement basé sur le fait qu'on a des gens qui sont extrêmement connaissants et compétents dans le fait de programmer dans différents langages de programmation. Ça devient un outil incroyable pour accélérer le travail qu'on fait. Et là, ce qui me fait peur de manière positive, c'est que la version du moteur derrière ChatGPT, c'est la version 3.5 du GPT Core, qui est une version améliorée de la version 3, qui ont mis un élément humain à l'intérieur qui va venir aider à entraîner le modèle. Mais ils seraient en train de travailler sur la version 4 et selon les estimations, la version 4 serait à des années-lumière de la version 3.5. Et c'est une des problématiques, ou plutôt aussi un des éléments qui est assez impressionnant avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une courbe de développement linéaire comme lesquelles on est habitué de voir. C'est exponentiel. Donc, ce qu'on voyait de l'intelligence artificielle d'il y a un an, aujourd'hui, c'est impressionnant, mais dans un an, ça ne sera pas deux fois meilleur. Ça va être 5, 10, 15 fois meilleur. Là. Donc, ça bouge extrêmement vite. C'est hallucinant. Là.
Ben, je pense que j'en parlais un petit peu avec toi avant le début du podcast, Jonathan. J'écoute beaucoup un podcast ces temps-ci de Peter Diamandis qui s'appelle Mindset and Moonshots, un podcast d'ailleurs que je recommande à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Peter Diamandis, c'est quelqu'un qui vit dans le futur. Il est convaincu qu'il va vivre jusqu'à 250 ans. Il y a les plus grands entrepreneurs qui viennent sur son podcast, les Elon Musk. les Eric Schmidt, ancien CEO de Google. Bref, énormément de gens totalement fabuleux. Et un des sujets récurrents sur le podcast, c'est l'intelligence artificielle. Et une des prémisses qu'il dit continuellement, il dit, écoutez, d'ici 5 à 10 ans, il va y avoir deux types d'entreprises dans le monde, les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et les entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Ça, je pense que et ça, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est quand même assez profond. C'est-à-dire, autant qu'on peut considérer peut-être l'Internet aujourd'hui ou n'importe quel outil primordial et nécessaire au travail qu'on fait quotidiennement, je pense que l'intelligence artificielle va arriver et va nous amener à ce même niveau d'importance d'ici quelques années, d'ici quelques mois. Juste en 2023, il y a énormément de choses qui vont changer. Tu as parlé, toi, de ton côté, que ChatGPT a été capable de vous écrire des lignes de code qui sont fonctionnelles. Je fais le même test de notre côté au niveau publicitaire. Et là, ici, on est dans une approche qui est peut-être un petit peu même plus simple. C'est de dire, peux-tu, ChatGPT, me créer des slogans publicitaires avec ces informations-là? Voici la cible, voici l'angle, voici le ton qu'on aimerait prendre, un ton plus familier. Et encore une fois, en une requête, peu importe la langue. Et ça, je pense que c'est un point important à mentionner à notre audience aujourd'hui. Ça fonctionne en français, ça fonctionne en anglais, ça fonctionne en espagnol. Bref, il nous sort ces messages publicitaires-là. Et là, c'est là que tu te rends compte à quel point ça peut pas juste changer. Et je connais même pas le terme en français. Je vais utiliser le terme en anglais. Ça peut disrupt plusieurs entreprises une à la fois, et ce, d'une, avec une rapidité impressionnante, voire fracassante. Parce que, je veux dire, juste de partir de cette optique-là, de dire qu'en une seconde, t'es capable de faire le travail, combien de temps que ça l'aurait pris peut-être de votre côté écrire toutes ces lignes de code-là, Jonathan?
Au moins une semaine. Pour être capable, au final, d'arriver à quelque chose de fonctionnel. Là.
C'est une semaine, une personne temps plein, on va dire 35 heures. Donc, je ne sais pas combien de temps que ça l'a pris, mais on va dire, mettons, une minute, deux minutes peut-être, comparativement.
Maximum.
Comparativement à 35 heures de temps humain. Oh! Et là, par la suite, essayer de le répliquer sur des économies d'échelle. Bon, vous êtes capable de comprendre le dessin. Je suis convaincu que si vous avez une entreprise aujourd'hui, vous devez vous poser ces questions-là, de dire comment ça peut aider mon organisation, comment je peux accélérer un petit peu le service que je fais pour mes clients. Donc ça, et là, par la suite, ce qui est important de dire, c'est que c'est open source, hein, ChatGPT. Je veux dire, par la suite, tu es capable de l'utiliser sur plusieurs aspects de ton entreprise. J'ai déjà vu des gens qui utilisent la technologie de ChatGPT en ce moment, qui intègrent ça un petit peu à certaines des technologies qu'ils ont, et en l'espace de une minute, tu es capable de donner un mot-clé sémantique que tu aimerais avoir dans un article SEO et capable de te sortir un excellent article de blog. J'ai vu déjà beaucoup d'entreprises mettre ça en place. Donc, les possibilités sont immenses dans plusieurs catégories. Moi, c'est ça que je trouve excessivement impressionnant.
Puis, ça m'est jamais arrivé dans les 5 dernières années de monopoliser un meeting d'équipe de l'entièreté de notre organisation chez OpenMind là, sur une technologie pour le montrer à l'équipe. Et c'est ce que je vais faire jeudi cette semaine. Là. Je prends une demi-heure avec l'équipe pour leur montrer ChatGPT parce que ça révolutionne, je pense, le travail de tout le monde pratiquement dans l'organisation. Puis pour donner un exemple, ce matin, on était avec notre personne à l'acquisition de talent et culture. Puis là, je faisais la blague avec elle. Je dis, regarde, je veux juste te montrer l'outil ChatGPT. Donne-moi une tâche aujourd'hui là, qui est brain and time consuming. Et la personne, elle me dit, ben on a faut ouvrir un poste, faut rédiger une description de poste pour un spécialiste Microsoft 365. Parfait, bouge pas, on pose la question. En 32 secondes, il nous sort une description de poste qui est supérieure à ce qu'on aurait fait si une personne aurait mis une heure ou deux à aller sur plusieurs sites, aller chercher de l'info. Et là, regardez bien la twist. Normalement, on se démarque chez OpenMind dans nos offres d'emploi en mettant ça un petit peu humoristique. Et je demande à ChatGPT, peux-tu me le reformuler de manière humoristique? Et on se met à relire ce qui est écrit et on rit, là. Mais rit et ça se tient et c'est positif, là, dans le sens que c'est pas imbécile, là. On aurait mis quelqu'un, une journée complète pour trouver le moyen de le réécrire comme ça. Aurait probablement arrivé un résultat moindre. Tout ça en moins de 5 minutes.
Ah, c'est
hallucinant.
C'est hallucinant, puis je pense que le mot est faible. Donc, pour les gens qui sont pas allés voir encore la technologie, on met un lien encore une fois dans les notes de l'épisode. Allez-y rapidement. Bon, là maintenant, il y a une question, Jonathan, puis je pense que c'est le point qu'on se doit d'aborder aujourd'hui. Il y a plusieurs questions. Mais bon, j'ai une entreprise, il y a des bonnes chances que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont des organisations également. Ça peut faire peur à beaucoup d'employés. Hein? Comment qu'on amène ça? Tu vas avoir un meeting jeudi, même chose, c'est déjà booké avec mes équipes. J'ai déjà eu des discussions un petit peu individuelles comme tu l'as eu avec certains membres de mon groupe. C'est quoi la narrative qu'un chef d'entreprise doit prendre par rapport à ça? Parce que autant que ça peut être magnifique et fantastique, autant que moi j'ai déjà eu des gens qui, quand ont vu ces technologies arriver, sont venus me voir. Puis, est-ce que mon travail est en jeu? Est-ce que je vais perdre mon emploi? On se doit d'avoir une narrative très claire en tant qu'organisation de comment on va utiliser l'intelligence artificielle très rapidement. Là.
La problématique, c'est que peu importe la narrative qu'on va avoir, ça va arriver très rapidement, puis c'est de manière exponentielle. Fait que je pense qu'il ne faut pas assez de couvrir la situation actuelle.
Exact.
On est invité rapidement à intégrer ces outils-là dans notre quotidien pour être plus performant que la compétition. Puis après ça, il faut suivre la vague puis essayer de se tenir au-devant de la vague. Donc, si on fait semblant que tout est beau puis que tout va être correct, malheureusement, on va tomber en bas de notre surf puis la vague va passer puis on ne suivra pas cette vague-là. Là.
Puis tu vois, moi, je pense que puis dans cette optique-là, regarde, je vais partager un petit peu moi ce que je dis en ce moment avec mes collègues, c'est notre organisation, notre groupe, même si ça peut paraître logique et évident, on est pro-AI, OK? On est pro-AI, c'est-à-dire que, juste qu'on soit clair, on va pas avoir peur ou on va pas se dire, ah, oh, notre travail peut pas changer. Non, il faut, faut dire quelle est la philosophie, là, mais j'espère que votre philosophie va être pro-AI parce que c'est pas une question de si, c'est une question de quand, OK? Soyons juste clairs ici, là, si c'est pas aujourd'hui que vous l'acceptez, vous aurez pas le choix dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 1 an et demi si vous voulez rester compétitif. C'est aussi simple que ça, OK? Donc, faut le dire. Puis par la suite, faut le dire. Il faut être très honnête sur ce qui va se dérouler, je pense, comme tu l'as dit. L'intelligence artificielle, au moment où on se parle, ChatGPT en l'occurrence, parce que c'est le sujet du podcast, en ce moment, c'est un outil que vous pouvez pas l'utiliser, vous devez l'utiliser dans votre travail. Parce que de toute façon, on est dans un environnement en 2022 et bientôt 2023 qu'on n'est plus tellement en train de regarder c'est quoi le input que l'employé met. On regarde quasiment uniquement c'est quoi le output qui est mis. C'est ce qui se déroule avec le travail à distance. On est rendu beaucoup plus dans un contexte où est-ce que on se voit moins, on donne des mandats et on veut que les mandats soient livrés. On pense que ça va prendre à peu près ce temps-là pour le faire. Si tu peux le faire encore plus vite et être encore plus productif, tant mieux. On est excessivement content. Donc, de tout faire ça depuis la COVID, on est beaucoup plus dans une mentalité de output que simplement de input. Et je pense que on se doit d'aider nos collègues à devenir des maîtres de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle va être là, la valeur. Elle va être là, la valeur, selon moi, le long terme, c'est de se dire comment qu'on est capable d'utiliser ces outils-là, d'être meilleur dans ce qu'on fait, d'être plus productif dans ce qu'on fait et également de faire évoluer notre poste par rapport à l'aide qu'on est capable de recevoir de l'intelligence artificielle. Parce que sûrement que d'ici 5 à 10, 15 ans, l'intelligence artificielle va être meilleure que nous sur à peu près tout, littéralement, je pense à peu près tout. Mais bon, il y a encore un certain travail à faire sur certains aspects. Je pense que c'est important d'utiliser tout ça maintenant. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours.
Oui, comme tu dis, c'est un outil incroyable pour nous propulser vers l'avant, mais si on n'utilise pas ces outils-là, les autres vont l'utiliser. Ça va devenir une norme. Puis, tu sais, si on regarde un petit peu l'ère du temps, on recule loin en arrière, il y a plusieurs centaines d'années, les humains qui étaient les plus valorisés, c'est les gens qui étaient forts. C'était la force physique qui était mise de l'avant. Le moteur à vapeur est arrivé, fait qu'à ce moment-là, c'est plus nécessairement la force physique qui est mise de l'avant, c'est ta capacité intellectuelle à retenir l'information puis être intelligent puis être smart. avec l'intelligence artificielle qui arrive présentement au niveau qu'on voit aujourd'hui avec ChatGPT, qui va être de manière exponentielle encore plus fort dans les prochains mois, c'est plus nécessairement l'intelligence puis la connaissance là, qui est mis de l'avant pour l'humain. Il y a une remise en question qui va être importante à avoir en tant qu'entreprise, en tant qu'être humain, mais après ça, comment qu'on s'assure de trouver une place là-dedans puis d'être positif au bout de la ligne? Je pense qu'il y a des éléments philosophiques qui vont bouger, c'est sûr et certain. Là.
Parce que c'est sûr et certain que sur un AI, sur un IA, si on utilise le terme français, est capable en l'espace de quelques secondes de faire le travail que 50 personnes feraient en même temps. Ben, encore une fois, on regarde ça sur une économie d'échelle. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'emplois qui vont... sur papier, ne plus être nécessairement important dans le futur. Donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des très, très grosses discussions philosophiques. Il y a beaucoup de il y a des États qui ont testé en ce moment ce qu'on appelle le UBI. Il y a le Universal Basic Income, je pense que c'est-tu, en tout cas, UBI ou, bref, c'est de donner à chaque être humain d'un État spécifique un montant d'allocation mensuelle d'argent simplement pour vivre un petit peu dans un comté. Je pense que ça a été testé en Californie. Je pense que ça a été testé également, si je me trompe pas, en Alaska. Il y a eu des très, très bons retours avec ça parce que on se rendait compte que l'être humain, tu dois pas y en donner trop nécessairement. Ça a été ça un petit peu le constat des recherches. On veut pas y en donner trop pour qu'il fasse rien, mais juste lui en donner assez pour ne pas être totalement heureux. Était là un petit peu le constat final, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de bénéfices. Donc peut-être qu'on va arriver de plus en plus à ça dans le futur, mais bon, ça devient, comme tu le dis, une discussion quasiment philosophique.
On n'aura pas le choix. Il y a un excellent livre qui est sorti, je pense, il y a 5 ans, qui est « The Second Age Machine », et il en parle justement de quand l'arrivée de l'intelligence artificielle à un certain niveau. Puis je pense qu'on arrive, là, c'est probablement ce qu'on vit aujourd'hui avec ChatGPT, on va voir dans 5-10 ans le point d'inflexion par rapport à l'intelligence artificielle et cet événement-là. Et justement, là, le revenu universel ou l'impôt inversé qu'ils appellent souvent, ils vont donner exemple, faut que tu gagnes 30 000, au-dessus de 30 000, t'es imposé, mais en dessous de 30 000, t'as un impôt qui est négatif, donc t'as le retour d'impôt qui rentre. C'est un des éléments qui explique dans ce livre-là qu'on n'aura pas le choix de mettre en place en tant que société pour avoir une société qui se tient au bout de la ligne.
Va falloir taxer les robots, c'est ça qu'ils disent.
Exactement. Parlant de chiffres, parlant de modèle de rentabilité de la compagnie OpenAI, je suis tombé sur des éléments intéressants hier. De faire des requêtes sur ChatGPT présentement, ils ne chargent rien pour les gens, mais eux, ça leur coûte de la puissance de calcul en arrière de ça. Le coût de puissance de calcul est énorme par requête. On parle à peu près 10 fois plus qu'une requête sur Google présentement. Et c'est une des raisons pourquoi que OpenAI ne sort pas tout de suite contre Google. C'est parce que le coût par requête est trop élevé présentement. Ça leur coûte présentement aux alentours de 3 millions de dollars US par jour, juste pour permettre à vous, toi, moi et tout le monde qui nous écoute d'essayer ChatGPT présentement. Faites le calcul. Une année complète à rouler comme ça, c'est 1 milliard US. Et le CEO d'OpenAI est sorti dans les dernières semaines dans une vidéo qui est disponible sur YouTube et un journaliste lui posait la question « C'est quoi votre modèle de rentabilité? » Et il a carrément dit « J'en ai aucune idée. » Et il a dit, savez-vous c'est quoi j'ai dit aux investisseurs? Et le journaliste demande, non, mais on veut le savoir, tu sais. Notre promesse aux investisseurs, c'est qu'on n'a aucune idée comment qu'on va rentabiliser ça. Mais une fois que l'intelligence artificielle va être rendue assez loin, on va demander à l'intelligence artificielle comment on va rentabiliser le tout pour vous faire créer un bon retour sur investissement.
Oh my God.
Et c'est pas des blagues, c'est vraiment la promesse qu'il a fait aux investisseurs de dire, on n'en a aucune idée comment qu'on va le rentabiliser, mais c'est l'intelligence artificielle elle-même qui va nous dire comment le faire quand on va être rendu là. C'est complètement hallucinant, là.
Mais c'est Sam Altman, le CEO.
Exactement.
Mais on est d'accord, c'est pas une entreprise à profit. Là. Je pense qu'il se voit en ce moment comme un organisme à but non lucratif, si ma mémoire est bonne. Là.
De ce que je comprenais, c'est que présentement, ils ont peu ou pas de revenus à l'heure actuelle. J'ai eu des brides qu'il y a des organisations comme Jasper.ai, des aides à la rédaction, paieraient des frais de licence d'utilisation de la technologie GPT, mais que ça serait très, très minime comme dollar présentement. En arrière, par contre, de OpenAI, dans les investisseurs, on a entre autres Microsoft.
Oui. Microsoft qui ont investi, qui ont injecté un milliard de dollars.
Exactement. Il y a à peu près 1 milliard là, qui est injecté par Microsoft en arrière. Donc, je sais pas c'est quoi. Puis eux-mêmes, on sent qu'ils ne savent pas où aller tout de suite. On dit, est-ce qu'ils vont aller faire un IPO d'aller en bourse? Est-ce qu'ils vont licencier la technologie? Est-ce qu'ils vont vraiment attendre que l'intelligence artificielle leur donne la réponse du meilleur moyen? Est-ce qu'ils vont partir contre Google? Parce qu'aujourd'hui, ils auraient la capacité de pratiquement, excusez-moi les mots, détruire Google parce que Google, on tape une demande, une recherche pour avoir une réponse de quelque chose, puis après, il faut aller voir sur les sites et se promener du site, on revient à Google, le site, on revient. Tandis que là, on fait une requête et il nous sommarise tout ce qu'il a trouvé sur la toile. On est complètement loin de Google, c'est une question de coût. De calcul, de puissance de calcul en arrière présentement. Mais d'après moi, dans quelques temps, c'est ce qui va arriver. Là, Google est pour la première fois en 20 ans menacé.
Ah, oh ben oui, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. Si vous faites le test, là, allez juste faire le test, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on veut dire. Et je pense d'ailleurs, puis peut-être je mettrai un lien là, que je viens de trouver qui est quand même assez intéressant. Parce que ils ont changé de modèle. Tu vois, à la base, ça avait été bâti comme un non-profit. Et là, on dirait qu'ils sont en train de changer un petit peu l'approche ici. Mais comme tu le dis, c'est pas excessivement clair. Mais en ce moment, ils perdent de l'argent, comme tu le dis, mais la valeur qui se crée, on est sur une échelle qui est totalement différente. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas testé ChatGPT, c'est le temps. Et c'est le temps aussi de se dire, et ça c'est une question c'est un point que j'avais lu à un moment donné qui m'avait énormément marqué, je ne me rappelle pas exactement le livre, mais qui disait, est-ce que vous vous posez la question continuellement, qu'est-ce qui peut vous mettre out of business? Qu'est-ce qui peut vous mettre en faillite demain matin? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Je vous le dis tout de suite. ChatGPT va être capable de faire ce travail-là pour vous. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement de ce que ça peut faire, de plus que peut-être vous chargez déjà vos clients, ou si vous êtes dans le produit, peut-être que vous allez vous rendre compte que ChatGPT est capable de déjà faire une partie du produit ou du service que vous offrez en ce moment. Voyez ça comme une menace entre parenthèses et posez des actions dans votre organisation reliées à ça. Parce que, comme tu le dis, Jonathan, ça va juste s'accélérer dans le futur. Ça ne retourne pas en arrière et ça s'accélère de façon exponentielle. Je pense que ça va bousculer beaucoup de modèles d'affaires dans les prochaines années, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce qui est certain, c'est que ça reste. Et ça ne part pas et ça va rester dans notre quotidien. Donc, on est mieux de comprendre comment ça fonctionne et on est mieux de commencer à tester tout ça dès aujourd'hui.
Effectivement. Puis si vous ne savez pas comment l'utiliser ou à quelle sauce utiliser ChatGPT, mais c'est simple, allez sur le site de ChatGPT et demandez-lui pour... dis simplement, là, mes loisirs sont A, B, C, D, ma profession est Y, mes buts dans la vie sont X, Y, Z et je vous garantis que vous allez avoir des exemples qui font vraiment du sens. C'est hallucinant. Elle va vous dire comment vraiment bien l'utiliser dans votre quotidien. C'est vraiment impressionnant. Là. Et les réponses font du sens. Là.
Comment tu vois ça pour 2023? Comment tu sens... Prédiction. On a fait un épisode de prédiction dernièrement. Peut-être on terminerait l'épisode là-dessus. Comment crois-tu que ChatGPT peut aider ton organisation en 2023?
Je fais juste une parenthèse avant de répondre à cette question-là. Pendant qu'on se parle, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les facteurs les plus importants qui pourraient mettre en danger une entreprise de service et la mettre en faillite. Et un des points, c'est le changement technologique. Une entreprise est dépendante d'une technologie qui devient obsolète ou qui est remplacée par une nouvelle technologie. Cela peut mettre en danger son activité. Vraiment impressionnant. Mais pour répondre à ta question, Antoine, je pense, nous, notre côté, c'est sûr, il faut être extrêmement à l'affût de ce qui se passe au niveau codage. Il y avait déjà des outils d'aide au codage et d'aide à la révision du code pour essayer de s'assurer qu'il est optimal. Ça, va falloir vraiment, vraiment, vraiment le porter une attention ou dédier du temps à chaque semaine pour voir quel outil se développe sous la technologie GPT ou similaire. Parce que j'ai la perception qu'on va être capable d'arriver à des résultats qui sont 5, 10, 15 fois plus rapides que ce qu'on est capable de faire sans ces outils-là. Et on est dans juste les premières versions de ces outils-là. Donc, je pense que notre domaine va beaucoup changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va falloir être au-devant de cette vague-là pour utiliser ces outils-là, pour livrer du résultat au bout de la ligne pour les clients. Je pense qu'il y a une opportunité en tant qu'entreprise à saisir. C'est ceux qui vont être les plus rapides à mettre en place ces outils-là et à redéfinir leur modèle d'affaires qui, je pense, vont être capables de se propulser vers l'avant. Ça va être la même chose dans nos équipes de services de soutien informatique. La majorité des problèmes, on peut poser la question à ChatGPT et ils vont donner des pistes de comment solutionner ces problèmes-là. La prochaine version, d'après moi, qui va arriver, c'est qu'il va tenter de régler les problèmes par lui-même et faire signe si jamais il n'y arrive pas pour qu'un humain intervienne. Donc, on est vraiment pas loin de ça. Il faut rester à l'affût puis il faut, je pense qu'on dédie en tant que dirigeant de notre temps personnel pour comprendre ces outils-là et de voir comment qu'on peut les appliquer dans nos entreprises, mais de libérer du temps à nos joueurs, dans nos équipes, pour qu'ils puissent voir comment aller tester ces outils-là plus en profondeur et le mettre en application au bénéfice de nos clients.
Ouais.
Je sais pas si c'était la même perception et le même plan de match de ton côté, mais.
Oui, je pense qu'il faut l'embrasser. Faut le tester et faut le tester sur des endroits qu'on pense que c'est totalement impossible et irréaliste que ChatGPT nous aide et on regarde ce qui ressort de ça et on est capable de voir jusqu'où il peut nous aider. Je pense que c'est ça l'idée un peu, c'est que des fois on peut avoir peut-être une croyance limitante de se dire, ben voyons donc, il peut pas m'aider là-dessus. Testez-le, je pense que ça peut vraiment vous aider. Puis vous allez sûrement analyser qu'il y a beaucoup de travail que vous faites dans votre quotidien qui a plus autant de valeur qu'il y en avait avant. Et là, c'est à vous de vous poser des questions, autant en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'employé, de savoir où est-ce que j'amène de la valeur dans un nouvel environnement et elle est où ma valeur? Et ça, je pense que c'est des questions pertinentes à se poser parce que on va avoir à se les poser souvent dans les prochaines années. On va avoir à se les poser souvent dans les prochaines années. Mieux vaut commencer maintenant. Donc, je crois que nous, de notre côté, tout le travail des fois là, de déclinaison, de publicité qu'on veut faire, qui au final, on a un concept principal et qu'on veut décliner sur plusieurs endroits possibles. Je pense que clairement, ChatGPT va être excessivement fonctionnel. Je pense que aider également nos créateurs, nos concepteurs qui des fois peuvent avoir la maladie de la page blanche, tu demandes à ChatGPT de t'aider à commencer une réflexion, c'est excessivement puissant parce que c'est souvent ce qui est le plus difficile, c'est de quand tu es en création, quand tu as un concept à faire ou une rédaction à faire, c'est de savoir où commencer. Ben là, un ChatGPT va être capable de donner cette première bribe et par la suite, tu vas pouvoir enchaîner à l'endroit exact où est-ce que tu veux te rendre. Donc, ces endroits-là, je les vois très fonctionnels pour nous dans la prochaine année.
Et même au niveau personnel, là, vous ouvrez votre frigidaire ce soir, votre réfrigérateur, et vous vous demandez quoi manger, tapez les quelques ingrédients que vous avez et je vous garantis qu'il va vous sortir 5, 6, 7, 8 recettes. Et moi, j'ai fait le test, je lui ai demandé de faire un plan alimentaire pour 7 jours avec tant de calories, avec exemple beaucoup de protéines, il va nous sortir un plan alimentaire complet. Puis là, tu dis, OK, mais tu l'as mis en format point par point, je le veux dans un tableau. Fait que tu lui demandes, peux-tu me le mettre dans un tableau? Et il le remet au complet dans un tableau. Ensuite, tu peux lui dire, écoute, ben là, je vais aller faire ma liste d'épicerie, on va être 3 à manger sur ce plan alimentaire-là pendant 2 semaines. Il va calculer toutes les quantités et faire un plan d'épicerie à la lettre. Tout ça, en 4 minutes, on a fait le tour. Alors qu'il aurait fallu payer quelqu'un une coupe de dollars pour réussir à arriver à ce résultat-là. Là, c'est vraiment impressionnant. Donc, même dans notre quotidien personnel, il y a des choses que l'outil peut venir nous aider. Là.
On est ailleurs, ça c'est clair, net et précis. Donc, encore une fois, on le répète, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Jonathan, autre chose à rajouter avant que je te laisse filer?
C'est complet. Ben, malgré que je dirais peut-être rapidement Elon Musk, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga encore hier, on en fait une bride de 30 secondes, mais il a lancé une question sur Twitter, ouais, à savoir s'il devait rester en tant que chef de l'organisation Twitter, oui ou non, et il mettait dans les mains des utilisateurs de Twitter sa destinée et le vote a sorti final comme quoi qu'il devait laisser la présidence de l'organisation à quelqu'un d'autre. À suivre, qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais il s'était prononcé avant qu'il allait suivre le résultat. Il allait respecter le résultat de ce vote-là. Hallucinant. J'ai rien d'autre à dire.
Il est impossible à suivre. On dirait qu'il est rendu complètement impossible à suivre notre Elon Musk. Donc, je sais pas trop ce qui va se dérouler avec Twitter. Clairement, je pense que lui non plus, en toute honnêteté, ça a l'air de changer tous les jours. Histoire à suivre, mais bon. Peut-être qu'il va poser la question à ChatGPT. ChatGPT va lui donner une réponse. Hein?
Effectivement.
On verra. Jonathan, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, allez jeter un petit coup d'œil au nouveau produit de OpenAI, ChatGPT. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de bien comprendre ce qui se déroule ici pour nous aider dans nos organisations. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.